Nous allons donc entendre Jacques de Decker, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. Jacques de Decker, germaniste de formation, est d'abord un homme de théâtre. Il exerce une abondante activité de dramaturge, de metteur en scène, notamment au Théâtre Poème à Bruxelles, de traducteur et d'adaptateur d'œuvres classiques et modernes, parmi lesquelles celles d'Hugo Claus ou de Woody Allen. Journaliste, il a dirigé le service culturel du journal Le Soir et animé de nombreuses émissions de radio et de télévision, et auteur de plusieurs romans, fréquemment traduit, d'essais et d'une biographie d'Ibsen. Il est également l'auteur d'un livret d'opéra qui fut Frühlingserwachen, qui fut créé au Théâtre de la Monnaie. Alors, il a été élu à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique en 1998 et il en est le secrétaire perpétuel depuis 2002. Alors, il nous parlera aujourd'hui de Cité aux deux visages. Alors, Jacques de Decker.
Merci. Merci beaucoup, chère Lise, d'avoir pris l'initiative d'abord de cette rencontre et surtout de nous avoir invités dans ce partenariat que nous avons déjà inauguré à Bruxelles, puisque en janvier dernier, la première académicienne à prendre la parole à Bruxelles, c'était justement Lise Gouvin. C'était la première fois qu'un membre d'une autre académie que la nôtre intervenait dans nos séances mensuelles. Je crois que nous partageons aussi le même souhait que cette collaboration se généralise, enfin au moins se pérennise un peu, et d'obtenir aussi les moyens de le faciliter. Je ne saurais assez y insister. Le titre cité aux deux visages que j'avais choisi était réducteur. J'avais pris le chiffre 2 en association avec le roman de Dickens, The Tale of Two Cities. Bruxelles, dont je parlerai essentiellement ce matin, j'écouterai ce que vous direz sur Montréal et on essaiera de confronter tout ça au cours de la journée. Bruxelles, en réalité, a beaucoup plus de visages, au point d'avoir une image indistincte, brouillée, déroutante, source de malentendus divers et d'une profonde erreur d'appréciation. Un rapide sondage sur le profil de cette ville, énormément citée et fort peu connue, la situe dans un champ sémantique qui n'a que peu à voir avec la culture. Bruxelles, ou Brussels plutôt, a une connotation essentiellement administrative, et même réglementaire. C'est là, en effet, que se concoctent les décisions qui ont une portée supranationale en Europe. Et ce rôle n'a fait qu'augmenter au fil des élargissements successifs de la Communauté européenne et puis de l'Union européenne. Ce qui ne valait au départ que pour 6 pays est à présent force de loi pour 27 et couvre des matières tellement multiples et diverses qu'elles représentent la majorité des décisions politiques qui ont des incidences sur la vie quotidienne des Européens. Car cet état de fait entraîne un paradoxe. On parle aujourd'hui d'autant plus des politiques nationales des pays membres que ceux-ci ont de moins en moins de choses à dire. Le phénomène paradoxal a une explication simple. Les décideurs de chaque pays isolé interviennent tous sur la politique globale de l'ensemble, d'où la multiplicité des visages de politiciens auxquels les citoyens sont confrontés. Le Belge commence à se rendre compte que Sarkozy, Merkel, Zapatero ou Berlusconi ont peut-être de moins en moins à décider chez eux, mais qu'ils pèsent en revanche de plus en plus sur la politique des autres. Je n'en prends pour exemple que les récentes élections en Allemagne, le virage à droite entraîné par la nouvelle coalition, ne peut pas ne pas avoir d'influence sur l'évolution générale du continent. De même, si Berlusconi venait à être véritablement mis en difficulté en raison de ses frasques de toute nature, cela ne pourrait pas ne pas se répercuter hors d'Italie. Dernier exemple, si le roi Nicolas devait vraiment subir des revers en raison de ses largesses à l'égard du prince Jean, l'Europe en serait forcément affectée. Tout cela entraînerait débats, controverses, secousses à Bruxelles. En clair, Bruxelles est une ville dont le destin en Europe évolue le plus à vue d'œil chaque jour. Cette situation au sein de l'important mécano politique qu'est l'Union lui confère de plus en plus l'apparence non pas d'un Janus, ce que l'évocation des deux visages aurait pu faire penser, mais d'une hydre aux innombrables têtes, si diverses, si monstrueuses, que la légende ne s'en est pas encore emparée. Le portrait de cette ville-là, dont le fonctionnement extrêmement complexe est incernable, n'a pas encore été fait. Mais rappelons-nous qu'il n'existe qu'un seul grand roman ayant pour cadre la Genève de la Société des Nations, à savoir Belle du Seigneur. C'est dire que Bruxelles attend toujours son Albert Cohen. Mais bien entendu, il n'y a pas que le Bruxelles de cette tour de Babel diplomatique, résultat de la coïncidence dans la même ville du Parlement, de la Commission et du Conseil des ministres européens. Il y a le Bruxelles de tous les jours, à ras du trottoir en quelque sorte, celui de la vie quotidienne, qui est curieusement peu affecté par ces turbulences institutionnelles, sinon sous forme d'embouteillages ou de manifestations qui les occasionnent. Cette ville-là est attachante, contradictoire, je le répète, ignorée, non moins compliquée que l'autre, très poétogénique, comme on dit photogénique, mais elle est privée d'un profil littéraire suffisant pour qu'il permette à l'imaginaire collectif de s'y loger. Qu'on l'exprime comme on veut, Bruxelles souffre d'une sous-reconnaissance littéraire. Chercherait-on un grand roman bruxellois ? On n'en trouverait pas. Une des plus célèbres romancières britanniques, Charlotte Brontë, a cependant séjourné à Bruxelles. Y a enseigné dans une institution scolaire appelée la pension Égée, y a été amoureuse de son directeur, mais en a tiré une fiction, Villette, qui en dit long, par l'usage du diminutif, sur le peu de cas qu'elle faisait d'une cité où elle avait éprouvé ses émois. Le propre de l'attitude des écrivains, lorsqu'ils évoquent Bruxelles, c'est d'en faire peu de cas au demeurant. Voltaire n'a que des sarcasmes à son égard et préfigure en quelque sorte le tombereau d'injures que Baudelaire lui destine dans ses Amenitates Belgicae, appelées aussi « Pauvre Belgique ». Pourtant, bien des écrivains, et non des moindres, ont cherché et trouvé à Bruxelles un refuge des plus hospitaliers. Indésirable à Paris, l'un en raison de ses dettes, l'autre de ses opinions, Dumas et Hugo furent heureux d'y être accueillis. Dumas y tenait table ouverte, boulevard de Waterloo, et Hugo y était traité comme un prince. Il avait sa résidence dans le haut de la ville et rejoignait quotidiennement par les ruelles qui, à l'époque, cernaient encore la cathédrale Sainte-Gudule, la galerie Saint-Hubert, où Juliette Drouet avait son appartement. Au rez-de-chaussée de son habitation s'est installée aujourd'hui, comme de juste, une librairie, Tropisme, l'une des plus célèbres d'Europe. Illustration du cas que l'on faisait de Hugo, devenu bruxellois d'adoption, il y a vécu 1000 jours, lorsque l'État belge dut, pour des raisons diplomatiques et pour ne pas s'aliéner le Second Empire, renoncer à offrir l'hospitalité à l'auteur de Napoléon le Petit. Les corps constitués belges au grand complet, comme en témoigne une célèbre gravure, accompagnèrent le grand homme à Anvers, où il s'embarquerait pour les îles anglo-normandes. Il est d'autres exemples de réfugiés littéraires et politiques notoires. Marx et Engels ont écrit le manifeste du Parti communiste dans un établissement de la Grand Place qui abrite aujourd'hui l'un des restaurants les plus réputés de la ville. La preuve, c'est qu'il est apprécié à la fois par Giscard et Gorbatchev. La Maison du Cygne, un chef-d'œuvre de la littérature hollandaise qui attaque de front le système colonial, le Max Havelaar de Multatuli, a vu le jour dans une autre demeure de cette même grande place que Cocteau comparait à un vaste théâtre. Mais ces séjours, souvent décisifs pour ceux qui les firent, ne se retrouvent que peu consignés dans leurs écrits. Il y a les carnets de notes de Hugo, mais qui ne parlent que de ses dépenses quotidiennes. C'est l'un des aspects du déficit littéraire dont pâtit la ville, comme je vous le disais. Mais il y a aussi un autre angle d'attaque pour aborder cette relative désaffection. C'est le traitement de Bruxelles dans les deux littératures de Belgique, la française et la flamande. De part et d'autre, on remarque un désintérêt troublant, même s'il s'explique différemment de part et d'autre de la frontière linguistique. Dans les lettres françaises de Belgique, Bruxelles n'est pas un tropisme majeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Rien de comparable avec Paris, Londres, Berlin, Rome ou même Dublin dans leur littérature respective. Prenons l'exemple du plus grand écrivain belge, le seul qui soit aujourd'hui traité, surtout depuis son entrée dans la Pléiade, comme un géant littéraire de première grandeur, Simenon. Dans ses plus de 200 romans, Bruxelles n'apparaît pour ainsi dire pas. On dira rien d'étonnant à cela, puisqu'il est liégeois. Et il est exact qu'il a inscrit sa ville natale dans l'Atlas littéraire international, avec pédigré, bien entendu, qui est une somme autobiographique, mais aussi avec nombre de romans, à commencer par Le Pendu de Saint-Folien, l'une des premières apparitions de Maigret, où il fait faire le voyage du commissaire jusque, merci, dans la cité Mosane. Simenon voue une dévotion à Liège, dont il se fait le chantre, comme Moravia l'est de Rome ou Pessoa de Lisbonne. Mais il garde une distance, voire un ressentiment à l'égard de Bruxelles, perçu d'ailleurs par beaucoup de Wallons comme une capitale qui leur a été absolument imposée. On peut aussi se demander si Simenon, qui fut très tôt aimanté par Paris, n'évitait pas de parler de Bruxelles parce qu'aux yeux des éditeurs dans la Cité Lumière, dans la Ville Lumière, Bruxelles faisait plus provincial que Strasbourg, Lyon ou Bordeaux. S'il avait été interrogé sur la chose, le plus prolifique des romanciers de langue française, ce serait probablement Ricrier. Mais cette attitude fondée sur un complexe se vérifie chez nombre de ses confrères moins productifs. Il faut la relier à un syndrome avec lequel les auteurs québécois ont dû se colter plus souvent qu'à leur tour, le centralisme parisien. Je sais qu'il a été perçu ici comme un fardeau. Il pèse plus lourdement encore, très longtemps, sur les écrivains belges. Pour comprendre le phénomène, il faut passer par un petit détour historique. Tout commence par l'affirmation de l'identité flamande dans le contexte belge aux alentours de la guerre de 14-18. Jusqu'alors, le français est non seulement la langue officielle dominante de l'ensemble du territoire, mais elle est aussi la langue privilégiée par les élites culturelles dans tout le pays. Des auteurs écrivent en néerlandais, ou sa forme locale, le flamand, certes, mais ils sont minoritaires et savent, pour certains, qu'ils se coupent, ce faisant, d'une audience internationale auquel le français donne accès. Il y a certes un Hendrik Conscience qui, au lendemain de l'indépendance, en 1836, écrit en flamand une grande épopée fondatrice, Le Lion des Flandres, dans une langue qui n'est que partiellement la sienne, puisqu'il est, comme son nom l'indique, le fils d'un grognard de Napoléon. Mais les jeunes intellectuels formés en français au collège Sainte-Barbe à Gand et qui se piquent d'écrire le font évidemment en français. Ils s'appellent par exemple Maeterlinck ou Verhaeren. Après 1918, Verhaeren, gloire internationale célébrée par Zweig et Gorki, est mort en 1917. Les écrivains originaires du nord du pays ne l'entendent plus ainsi. Et ils vont, à partir de là, opter de façon dominante pour le néerlandais. Les écrivains wallons et bruxellois, où le français reste la langue principale, se sentent en quelque sorte largués par la Flandre et traversent une crise identitaire. Sans se l'avouer, ils ne se reconnaissent plus dans un pays qu'ils jugent amputé ou même réduit de moitié. C'est l'époque de Charles Pisnier, de Guy de Beauchère, de Frans Helens, d'Henri Michaux. Ils vont, de façon massive, s'adresser à la France comme à leur patrie de référence, à laquelle ils se sentent liés par leur instrument de travail, la langue. Certains d'entre eux, et non des moindres, vont y aller vivre, et même s'y immerger totalement, au point de renier leurs origines, comme c'est le cas de Michaud. Cette adhésion au grand voisin va entraîner de multiples conséquences, dont un déplacement de l'aire géographique qui sert de théâtre des opérations à leurs romans. Innombrables sont les livres d'auteurs belges qui, durant l'entre-deux-guerres et l'immédiate après-guerre, vont se situer en France, et quelquefois même à Paris. C'est le cas des romans de Bertin, de Burniaux, d'Aigueparse. Bien des livres de la sorte se passent dans un Bruxelles camouflé sous des oripeaux français ou parisiens. Ce signe d'aliénation ne sert pas la cause du profilage littéraire de Bruxelles, bien entendu. Pour beaucoup d'auteurs, ce déplacement géographique est perçu comme une condition sine qua non d'édition à Paris. Si l'on voit la chose économiquement, on pourrait conclure à un déplacement du marché. Puisque le nord du pays fait sécession, nous allons nous replier sur l'ensemble francophone qui, au surplus, a l'avantage du nombre. On peut avoir ses préventions à l'égard de ces explications pas trop matérialistes, voire utilitaristes, mais dans ce cas, elles sont marquées au sceau de l'évidence. Première explication d'une absence de Bruxelles des lettres belges de langue française. Il faudra attendre les années 70 et la, entre guillemets, belgitude pour qu'il soit porté remède à cette dérive. Du côté flamand, le rejet de Bruxelles est encore plus radical et en grande partie annonciateur des problèmes dans lesquels la Belgique s'enlise depuis des années. Bruxelles apparaît aux yeux des Flamands comme une cité perdue et une cité traîtresse. Il est évident que le flamand, qui était la langue de la région bruxelloise qu'on pourrait élargir à l'échelle du Brabant depuis le Moyen-Âge, a perdu du terrain depuis, et plus précisément depuis les Bourguignons. Charles Quint, au XVIe siècle, l'avait élu sa ville de prédilection et régnait en grande partie sur le monde depuis sa résidence du Codenberg, là où s'élève aujourd'hui le Palais Royal, où il avait installé sa cour, où le français dominait par rapport aux autres langues que ce grand polyglotte pratiquait, le flamand, l'allemand, l'espagnol, ce qui lui faisait dire qu'on était autant de fois un homme que l'on parlait de langue. Depuis, le français n'avait pas cessé de s'imposer dans les milieux privilégiés. Sous le régime autrichien Joseph II, puis Marie-Thérèse en encourage l'usage, y compris par l'installation, par cette dernière, de l'Académie. Il va de soi que l'occupation française va encore accentuer la tendance, et curieusement, les 15 ans d'appartenance aux Provinces-Unies ne va pas y changer grand-chose. La francisation de Bruxelles se faisait au détriment du flamand, phénomène qui va être de plus en plus considéré par les tenants de cette langue comme une forfaiture. Bien des mesures, jugées à juste titre abusives par les francophones, qui veulent aujourd'hui encercler Bruxelles, ville officiellement bilingue, alors que le rapport d'usage entre français et néerlandais y est approximativement de 85 contre 15, dans un carcan flamand, tire l'origine de cette évolution. D'un point de vue littéraire, cela entraîne évidemment une absence quasi totale de Bruxelles dans le décor romanesque flamand. Je ne connais qu'une seule exception, celle de Herman Terling, qui outrepasse cet ostracisme. Mais cet écrivain majeur de la première moitié du XXe siècle paie aujourd'hui cette attitude par une relégation pas du tout fortuite dans l'oubli. Le renversement de la tendance ne se produira qu'avec les années 70, du moins du côté francophone. Ce sont les années de ce qu'on a appelé la belgitude. Ce mouvement, qui n'en est pas un au demeurant, puisqu'il ne s'est jamais structuré comme tel, est une réaction, du moins pour une partie, à la transformation de l'État en une structure fédérale qui se produit dans ces années. Des intellectuels francophones, surtout, s'aperçoivent du danger d'un démantèlement qui pourrait résulter en une disparition de la Belgique tout court au profit d'une tendance identitaire et nationaliste qui se profile de plus en plus. En Wallonie, un mouvement se développe qui a ses racines remontant au XIXe siècle et se renforce devant la poussée autonomiste flamande, plaidant pour une prise en charge de la Wallonie par elle-même. Quelques intellectuels brillants, qui vous sont d'ailleurs familiers, comme Jacques Dubois ou Jean-Marie Klinkenberg, s'y rallient ou lui marquent leur sympathie. Il a dans ses rangs un dramaturge majeur, Jean Louvet, défenseur le plus représentatif d'une Wallonie orientée à gauche, qui, se dételant de la Flandre, s'orientation par contre conservatrice, voire régressive, préserverait ainsi ses grandes conquêtes sociales. Mais c'est plutôt parmi les tenants de la, entre guillemets, belgitude, que l'on verra se ranger des écrivains qui vont rendre à Bruxelles son statut littéraire pour autant que...
Nous allons donc entendre Jacques de Decker, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. Jacques de Decker, germaniste de formation, est d'abord un homme de théâtre. Il exerce une abondante activité de dramaturge, de metteur en scène, notamment au Théâtre Poème à Bruxelles, de traducteur et d'adaptateur d'œuvres classiques et modernes.